Chapitre 24. Madinatu Ta'id, Bagdad, à Sher Salman. Ô croyants en l'unité de Dieu, gardez-vous de distinguer entre les manifestations de sa cause, de faire à leur sujet quelque discrimination qui aille à l'encontre des signes dont s'est accompagnée leur révélation et l'ont proclamée. Voilà le sens réel de l'unité divine. Si vous êtes de ceux qui peuvent comprendre cette vérité et y croire. De plus, soyez assurés que non seulement les œuvres et les actes de toutes ces manifestations, mais aussi tout ce qui les concerne et tout ce qu'elles pourront manifester à l'avenir, tout est d'ordre divin et reflète la volonté et le dessein de Dieu. En effet, ils refusent de croire en Dieu, répudient ses signes et trahissent la cause de ses messagers, celui qui fait la plus légère différence entre leurs personnes, leurs paroles, leurs messages, leurs actes et leur façon d'agir. Chapitre 25 à un inconnu. Tout âge dans lequel vit une manifestation de Dieu est évidemment un âge d'ordre divin et peut être, en ce sens, qualifié de jour désigné par Dieu. Ce jour, toutefois, est un jour unique et doit être distingué de ceux qui l'ont précédé. L'appellation « sceau des prophètes » révèle pleinement son rang élevé. En fait, le cycle prophétique est clos. La vérité éternelle est maintenant venue. Levant l'étendard de la puissance, Dieu répand à présent sur le monde l'éclat sans nuage de sa révélation. Chapitre 26. Loi Tawid, Acre. Loué soit Dieu, l'omnipossédant, le roi d'incomparable gloire, d'une louange infiniment supérieure à la compréhension de tout ce qui est créé, hors de la portée des intelligences humaines. Nul autre que lui n'a jamais été capable de célébrer convenablement sa louange, et jamais aucun homme ne parviendra à donner la mesure de sa gloire. Qui peut prétendre avoir atteint les sommets de sa sublime essence, et quelle intelligence peut mesurer les profondeurs de son insondable mystère? De chacune des révélations émanées de la source de sa gloire, des preuves sans fin sont apparues, toutes d'une splendeur inimaginable. Et de chacune des manifestations de son invisible puissance ont coulé des océans de lumière éternelle. Sublimes sont les merveilleux témoignages de sa toute-puissante souveraineté, dont une simple lueur, si elle les atteignait, suffirait à consumer tous ceux qui sont dans le ciel et tous ceux qui sont sur la terre. Ineffables sont les gages de son pouvoir souverain, dont un seul signe, si petit soit-il, dépasse la compréhension de tout ce qui a été appelé à l'être depuis le commencement qui n'a pas de commencement, et de tout ce qui sera créé dans l'avenir jusqu'à la fin qui n'a pas de fin. Toutes les incarnations de ces noms errent dans le désert de la recherche, altérées et avides de découvrir son essence, et du Sinaï de sainteté, toutes les manifestations de ses attributs l'implorent de les laisser pénétrer son mystère. Une goutte du bouillonnant océan de sa miséricorde orne la création de la parure de l'existence, et un souffle parti de son paradis incomparable revêt tous les êtres du vêtement de sa gloire et de sa sainteté. Quelques gouttes de sa volonté insondable, souveraine et universelle, appellent du néant à l'être une création infinie dans son étendue et immortelle dans sa durée. Les merveilles de sa munificence ne peuvent cesser, et le cours de sa grâce miséricordieuse ne peut jamais être arrêté. Le processus de sa création n'a pas eu de commencement et ne peut avoir de fin. En tout âge et dans chaque cycle, par la lumière resplendissante des manifestations de sa merveilleuse essence, il a recréé toute chose, afin que rien de ce qui reflète les signes de sa gloire sur la terre et dans les cieux ne soit privé des torrents de sa miséricorde, ni ne désespère de recevoir la pluie de ses faveurs. voyez comme les merveilles de sa grâce sans limite embrassent toutes choses, comme elles imprègnent la création tout entière. Telle en est la vertu, qu'il n'y a pas dans l'univers un seul atome qui ne proclame la puissance de Dieu, qui ne glorifie son saint nom, qui ne reflète la resplendissante lumière de son unité. Si parfaite et si vaste est sa création, qu'il n'ait pas d'intelligence ni de cœur, pour pénétrant ou pur qu'il soit, qui puisse saisir la nature essentielle de la plus insignifiante de ses créatures, et moins encore pénétrer le mystère de celui qui est le soleil de vérité, l'invisible et inconnaissable essence. Les conceptions des plus dévots des mystiques, les œuvres des plus accomplies parmi les hommes, les plus hautes louanges que la plume ou la parole puissent exprimer, tout cela est le produit de l'intelligence finie de l'homme et reste enfermé dans les limites de cette intelligence. 10 000 prophètes, dont chacun est un Moïse, sont foudroyés sur le Sinaï de leur quête par cet arrêt terrifiant. « Jamais tu ne contempleras ma face. » Cependant qu'une myriade de messagers, tous aussi grands que Jésus, demeurent consternés sur leur trône céleste devant l'interdiction « Mon essence, tu ne la comprendras jamais. » De temps immémorial, il est voilé dans la sainteté ineffable de sa sublime personne, et il restera à jamais enveloppé de l'impénétrable mystère de son essence inconnaissable. Toute tentative pour comprendre son inaccessible réalité a tourné à l'entière confusion de son auteur, et tout effort pour approcher sa personne sublime et se représenter son essence a abouti à un échec désespéré. Pour moi, tenter en mon insignifiance de sonder les profondeurs sacrées de ta science serait déconcertant. Et futiles seraient mes efforts pour envisager la grandeur de la puissance inhérente à ton œuvre, par lequel se révèle ton pouvoir créateur. Comment mon œil, qui n'a pas même la faculté de se percevoir lui-même, pourrait-il se flatter d'avoir discerné ton essence, et comment mon cœur, déjà impuissant à saisir le sens de ses propres potentialités, prétendrait-il avoir compris ta nature? Comment revendiquerais-je de t'avoir connu, quand toute la création est confondue par ton mystère? Et comment, d'autre part, confesserais-je ne point t'avoir connu, alors que l'univers entier proclame ta présence et atteste ta vérité? De toute éternité, les portails de ta grâce sont restés grands ouverts. Des voies se sont toujours offertes pour accéder à ta présence, et les révélations de ta beauté sans égale n'ont cessé d'être imprimées sur l'essentielle réalité de tous les êtres, tant visibles qu'invisibles. Et pourtant, en dépit de cette suprême faveur, de ce don parfait, je suis poussé à attester que ta cour de gloire et de sainteté est exaltée par-delà toute mesure, au-dessus de la connaissance de tout autre que toi, et que le mystère de ta présence est insondable pour tout autre esprit que le tien. Personne, à l'exception de toi, ne peut pénétrer le secret de ta nature, et rien d'autre que ton essence transcendante ne saurait comprendre la réalité de ton être inconnaissable. Nombreux sont ces êtres de gloire qui ont erré à ta poursuite tous les jours de leur vie dans le désert de ton absence et qui ne t'ont finalement jamais trouvé. Grande est la multitude d'âmes saintes et célèbres qui se perdirent à tenter de contempler ta face dans le désert de la recherche. Par myriades, tes ardents adorateurs ont sombré et péri, consumés du feu de ton absence. Et innombrables sont les âmes fidèles qui ont volontairement offert leur vie pour voir la lumière de ton visage. Les plaintes de ces cœurs qui soupirent ardemment après toi ne peuvent atteindre ta cour sacrée, pas plus que ne parviennent à ton siège de gloire les lamentations des voyageurs qui ont soif de contempler ta face. Chapitre 27. À un inconnu. Louange à l'unité de Dieu et honneur à l'incomparable et très glorieux souverain de l'univers, qui du pur néant tire la réalité de toute chose, qui de l'inexistence appelle à l'être les éléments les plus raffinés et les plus subtils de sa création, et qui, relevant ses créatures de l'abaissement où les tenait l'éloignement de sa présence, et les sauvant de l'extinction finale, les reçoit dans son royaume d'incorruptible gloire. Rien de moins que sa grâce universelle et son omniprésente miséricorde ne peut accomplir ce prodige. Comment, sans elle, le néant aurait-il le mérite et la capacité de passer de l'état de non-existence au royaume de l'être? Ayant créé le monde et tout ce qui y vit et s'y meut, Dieu choisit, par l'opération directe de sa volonté libre et souveraine, de conférer à l'homme la dignité et la capacité unique de le connaître et de l'aimer, capacité qui doit être regardée comme la force créatrice et la raison d'être de toute la création. Sur l'essentielle réalité de toute chose créée, il a répandu la lumière d'un de ses noms, et de chacune d'elles, il a fait le siège de la gloire d'un de ses attributs. Mais sur la réalité de l'homme, il a concentré l'éclat de tous ses noms et attributs et en a fait le miroir de son être propre. Seul entre toutes choses créées, l'homme a été choisi comme l'objet d'une faveur aussi grande et aussi permanente. Mais ces énergies dont le soleil de la générosité divine, source de la direction divine, a doté l'essentielle réalité de l'homme, ne sont en lui que l'attente, comme est l'attente la flamme dans la bougie, et comme les rayons de la lumière sont en puissance dans la lampe. L'éclat de ces énergies peut être obscurci par les désirs terrestres, comme la lumière du soleil peut être cachée sous la poussière et les impuretés qui recouvrent le miroir. Ni la lampe, ni la bougie ne peuvent s'allumer d'elles-mêmes. Et le miroir ne pourrait davantage, par ses propres moyens, se débarrasser de ses souillures. Il est évident que si on ne l'allume pas, la lampe n'éclairera pas et que, jusqu'à ce que soit enlevée la poussière qui le recouvre, le miroir ne pourra montrer l'image du soleil ni refléter sa lumière et sa gloire. Et comme il ne peut y avoir de lien direct entre le seul vrai Dieu et sa création, et que rien de commun ne peut exister entre le transitoire et l'éternel, le contingent et l'absolu, Dieu a ordonné qu'en tout âge et en chaque ère, une âme pure et sans tache soit manifestée dans les royaumes du ciel et de la terre. À cet être subtil, éthéré, mystérieux, il a attribué une double nature, l'une physique, appartenant au monde de la matière, l'autre spirituelle, qui est né de la substance de Dieu lui-même. Il lui a de plus conféré un double rang. Le premier, qui se relie à sa réalité la plus profonde, le représente comme celui dont la voix est la voix de Dieu lui-même. C'est ce que la tradition atteste par ses paroles. « Multiple et mystérieuse est ma relation avec Dieu. Je suis lui, lui-même, et il est moi, moi-même. Sauf que je suis ce que je suis, et qu'il est ce qu'il est. Et de même, lève-toi, ô Mohammed, car voici que l'amant et le bien-aimé sont en toi réunis et confondus. » Il a dit pareillement, « Il n'y a aucune espèce de distinction entre toi et eux, sauf qu'ils sont tes serviteurs. » Le second rang, qui illustre les versets qui suivent, est humain. « Je ne suis qu'un homme comme vous. » Dit, « Louange à mon Seigneur, suis-je plus qu'un homme, plus qu'un apôtre ?» Ces essences de détachement, ces réalités resplendissantes, sont les canaux de la grâce universelle de Dieu. Guidés par la lumière de l'infaillible direction et investis d'une souveraineté suprême, elles ont pour mission, par l'inspiration de leurs paroles, les effusions de leur grâce infaillible et la brise sanctifiante de leur révélation, de débarrasser tout cœur assoiffé et tout esprit réceptif des impuretés et des poussières dues aux soucis et aux limitations de la terre. Alors, et alors seulement, le dépôt divin, latent dans la réalité de l'homme, émergera aussi resplendissant que le soleil levant de la révélation divine, hors des voiles qui le cachaient, et plantera à la cime du cœur des hommes l'étendard de sa gloire dévoilée. Des citations et références qui précèdent, il ressort clairement et indubitablement que dans les royaumes du ciel et de la terre, il faut de toute nécessité que soit manifesté un être, une essence qui agira comme manifestation et véhicule de la grâce de Dieu lui-même, le souverain Seigneur de toutes choses. Par les enseignements de ce soleil de vérité, tout homme progressera et se développera jusqu'à ce qu'il parvienne à ce stade où il pourra manifester tout le potentiel des forces dont son être intime et essentiel est doté. C'est dans ce but précis qu'en tout âge et en chaque ère, les prophètes de Dieu et ses élus ont paru parmi les hommes et montré un pouvoir tel qu'il ne peut venir que de Dieu et une puissance telle que seul l'Éternel peut la révéler. Celui qui juge sainement peut-il vraiment imaginer que, faute d'avoir compris la signification de certaines paroles, les portes de la direction divine soient à jamais fermées à la face des hommes? Peut-il concevoir pour ces divins flambeaux, ces resplendissantes lumières, soit un commencement, soit une fin? Quel torrent pourrait être comparé aux cours impétueux de sa grâce universelle? Et quelle bénédiction pourrait surpasser les manifestations d'une si grande et si pénétrante miséricorde? Il n'est pas douteux que si le flot de cette miséricorde et de cette grâce se retirait du monde, ne fût-ce qu'un instant, celui-ci périrait aussitôt. C'est pourquoi, depuis le commencement qui n'a pas de commencement, les portes de la miséricorde divine ont été largement ouvertes à la face de tous les êtres créés, et que jusqu'à la fin qui n'a point de fin, les nuages de la vérité continueront à déverser sur le sol de la capacité, de la réalité et de la personnalité humaine les pluies de leur faveur et de leurs bienfaits. Telle est la méthode suivie par Dieu depuis toujours et à jamais. Chapitre 28. Aux amis Bahaï. Heureux l'homme qui se lève pour servir ma cause et glorifier mon nom merveilleux. Par la puissance de mon pouvoir, saisis mon livre et attache-toi fermement à tous les commandements qui prescrit ton Seigneur, l'ordonnateur, le très sage. Ô Muhammad, vois comme les dires et les actes des disciples de l'islam chiite ont assombri la joie et la ferveur de ses premiers jours, et ternit l'éclat immaculé de sa lumière. Au début, alors qu'ils adhéraient encore aux préceptes qui se confondent avec le nom de leur prophète, le Seigneur de l'humanité, leur carrière fut marquée par une suite ininterrompue de victoires et de triomphes. Mais à mesure qu'ils s'écartaient du sentier de leur maître idéal et se détournaient de la lumière de Dieu, à mesure qu'ils corrompaient le principe de l'unité divine et qu'ils concentraient davantage leur attention sur ceux qui n'étaient que les révélateurs de la puissance de sa parole, leur force peu à peu se changea en faiblesse, leur gloire en honte, leur courage en peur. Tu es témoin de ce à quoi ils en sont venus. Vois comment ils ont donné des associés à celui qui est le point où se concentre l'unité divine. Vois comment leurs agissements coupables les ont empêchés de reconnaître, au jour de la résurrection, la parole de vérité, exaltée soit la gloire de Dieu. Nous chérissons l'espoir que ceux qui nous écoutent se garderont des vaines illusions et des imaginations stériles, et qu'ils parviendront à une véritable compréhension du sens de l'unité divine. La manifestation a toujours été le représentant et le porte-parole de Dieu. Elle est, en vérité, la source des plus excellents titres de Dieu et l'aurore de ses glorieux attributs. Si d'aucuns prétendaient être ses égaux, s'ils étaient considérés comme identiques à sa personne, comment serait-il possible de soutenir que l'être divin est un et incomparable, que son essence est indivisible et sans égale? Médite sur ce que nous t'avons révélé par le pouvoir de la vérité, et sois de ceux qui en comprennent la signification. Chapitre 29 À un inconnu. Le dessein de Dieu en créant l'homme a été et sera toujours de le rendre capable de connaître son Créateur et d'accéder à sa présence. Tous les livres sacrés, les Écritures divinement révélées et de grande valeur, attestent ce but excellent, cet objectif suprême. Celui qui a reconnu la source de la direction divine et est entré dans sa cour sainte s'est approché de Dieu. Il a obtenu l'accès en sa présence, paradis véritable dont les plus hautes demeures du ciel ne sont que le symbole. Un tel homme est parvenu à la connaissance du rang de celui qui est à deux portées de flèche, qui se tient par-delà le Sadratul Muntaha. Mais celui qui n'a pas reconnu cette source s'est lui-même condamné à la misère de l'éloignement de Dieu, éloignement qui n'est que pur néant, l'essence même du feu de l'enfer. Tel est le sort de l'incroyant, encore qu'il semble occuper les plus hautes situations de la terre et être établi sur le trône le plus glorieux. Nul doute que celui qui est la source de vérité ne soit pleinement capable de sauver d'un tel éloignement les âmes égarées, de les rapprocher de sa cour et de leur donner accès à sa présence. S'il eût plu à Dieu, il eût sûrement fait des hommes un seul peuple. Mais son dessein est de mettre ceux qui ont le cœur pur et l'esprit détaché à même d'aborder, par la vertu même de leurs pouvoirs innés, les rivages du très grand océan, afin qu'ayant ainsi sincèrement et diligemment cherché la beauté du très glorieux, ils soient distingués et séparés des indociles et des pervers. Ainsi en a-t-il été ordonné par la plume toute glorieuse et resplendissante. Que lors de leur apparition parmi les hommes, les manifestations de la justice divine, source de la grâce céleste, aient été dépourvues de tout pouvoir terrestre et privées de toute autorité en ce monde, doit être attribué à ce même principe de distinction et de séparation qui anime le plan divin. Si l'éternelle essence manifestait tout ce qui est latent en elle, si elle resplendissait dans la plénitude de sa gloire, nul ne songerait à mettre en doute sa puissance ni à répudier sa vérité. D'ailleurs, toutes les choses créées seraient à ce point éblouies et écrasées par l'évidence de sa lumière qu'elles en retourneraient au néant. Comment, en de telles circonstances, l'indocile pourrait-il être distingué du croyant? Ce principe a joué dans chacune des révélations précédentes, et il en a été donné d'abondantes preuves. C'est ainsi qu'en tout âge, lorsqu'une nouvelle manifestation se produit et qu'une révélation nouvelle du pouvoir transcendant de Dieu est accordée au monde, ceux qui ne croient pas en lui, abusés par l'apparence mortelle que revêt l'éternelle beauté, refusent de la reconnaître. Ils s'écartent de son chemin et fuient la présence du symbole même de la proximité de Dieu. Ils vont jusqu'à décimer ses fidèles, à exterminer ceux qui croient en lui. Vois comment, en cet âge, vauriens et insensés voulurent croire que par les massacres, le pillage et le bannissement, ils pourraient éteindre la lampe allumée par la main du pouvoir divin ou éclipser le soleil de splendeur éternelle. Ils semblent ignorer complètement que cette adversité même est l'huile qui nourrit la flamme de cette lampe. Tel est le pouvoir divin de transmutation. Il change tout ce qu'il lui plaît de changer. Il a en vérité pouvoir sur toute chose. Considère en tout temps la souveraineté qu'exerce le roi idéal et contemple les preuves de sa toute-puissance. Purifie tes oreilles des vains bavardages de ceux qui sont le symbole de l'incroyance et les représentants de la violence et de la colère. L'heure approche où tu verras triompher sur toute chose créée le pouvoir du seul vrai Dieu et les signes de sa souveraineté englober toute sa création. En ce jour, tu découvriras que tout ce qui n'est pas lui est rentré dans l'oubli et considéré comme pur néant. Il ne faut cependant pas perdre de vue que Dieu et ses manifestations ne sauraient être, en aucun cas, dissociés de la grandeur et de la sublimité qui leur sont inhérentes. Bien mieux, cette grandeur et cette sublimité sont elles-mêmes créées par sa parole, si tu veux voir par mes yeux et non par les tiens. Chapitre 30. À Ali Enour et Isfahani. Dieu atteste qu'il n'est pas d'autre Dieu que lui, le bienveillant, le bien-aimé. Toute grâce et tout bienfait viennent de lui. Il donne à qui il veut ce qu'il lui plaît de donner. Il est en vérité le Tout-Puissant, le Secours, l'Absolu. Nous croyons en celui qui, en la personne du Bab, a été envoyé par la volonté du seul vrai Dieu, le Roi des Rois, le Très-Loué. Nous jurons de plus fidélité à celui qui est appelé à se manifester au temps de Mustagat, aussi bien qu'à ceux qui viendront après lui, jusqu'à la fin qui n'a point de fin. Nous reconnaissons chacun d'eux, aussi bien dans l'apparence que dans la réalité, la manifestation de Dieu lui-même, si vous êtes de ceux qui comprennent. Chacun d'eux est un miroir de Dieu, ne reflétant rien d'autre que son soi, sa beauté, sa puissance et sa gloire, si vous pouvez comprendre. Tous les autres doivent être considérés comme des miroirs capables de refléter la gloire de ces manifestations qui sont, elles, les premiers miroirs de l'être divin, si vous n'êtes pas dépourvu d'entendement. Nul n'a jamais pu leur échapper et nul ne pourra les empêcher d'atteindre leur but. Ces miroirs continueront indéfiniment à se succéder et à refléter la lumière de l'Ancien des Jours. Et ceux qui reflètent leur gloire continueront de même à exister à jamais, car la grâce de Dieu ne peut cesser d'affluer. C'est là une vérité contre laquelle nul ne saurait s'élever. Chapitre 31. Suratul Ibad, Acre, à Seyyed Mehdi Dahaji. Contemple de ton œil interne la chaîne des révélations successives qui relie la manifestation d'Adam à celle du Bab. J'atteste devant Dieu que chacune fut envoyée par l'opération de la volonté et du dessein divin, que chacune apporta un message spécifique et qu'à chacune fut confié un livre divinement révélé avec mission de dévoiler les mystères d'une puissante tablette. La mesure de la révélation à laquelle chacune d'elles s'est identifiée avait été préordonnée. Et cela est un gage de notre faveur envers elle, si vous êtes de ceux qui peuvent comprendre cette vérité. Et quand ce processus de révélation progressive atteignit son point culminant, le stade où devait être dévoilée aux yeux des hommes sa face très sacrée, sublime et sans égale, il décida de cacher sa véritable réalité sous mille voiles, de peur que des yeux profanes ne découvrent sa gloire. Ainsi fit-il, alors que pleuvait sur lui, en nombre tel que seul peut les compter le Seigneur, votre Dieu, Seigneur de tous les mondes, les signes et les gages d'une révélation divine. Et quand le temps fixé pour le secret fut révolu, nous fîmes apparaître, encore qu'enveloppés d'une myriade de voiles, une infinitésimale lueur de la gloire resplendissante qui rayonnait de la face de cet adolescent. Et voici, tous les habitants des royaumes célestes ressentirent une violente commotion, et tous les favoris de Dieu tombèrent en adoration devant lui. Assurément, il a manifesté une gloire dont la création n'avait jamais encore été témoin, car il s'est levé en personne pour proclamer sa cause devant tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre. Chapitre 32. Loéreza. Tout ce que tu as appris concernant Abraham, l'ami du Très-Miséricordieux, est vrai sans l'ombre d'un doute. La voix de Dieu lui ordonna d'offrir Ismaël en sacrifice, afin que la fermeté de sa foi et son détachement de tout sauf de lui soient démontrés aux hommes. Car Dieu voulait ce sacrifice en rançon des péchés et des iniquités des peuples de la terre. L'honneur d'une telle rançon, Jésus, fils de Marie, le sollicita pour lui du seul vrai Dieu, exalté soit son nom et sa gloire. Et Houssen le connut à son tour, quand il fut offert en sacrifice par Mohammed, l'apôtre de Dieu. Nul ne peut prétendre avoir compris la nature de la grâce multiple et cachée de Dieu. Nul ne peut pénétrer son infinie miséricorde. Telles ont été les transgressions des hommes et leur perversité, et si cruelles les épreuves dont ils ont affligé les prophètes de Dieu et leurs élus, que l'humanité tout entière mériterait de souffrir et de périr. Mais dans le secret de sa tendre providence, et par des moyens tant visibles qu'invisibles, Dieu lui a épargné et continuera de lui épargner le châtiment dû à sa perversité. Médite cela en ton cœur, afin que la vérité puisse être révélée et que tu restes ferme dans son chemin.